rap. Foul shit, of course.
Fragments aux éditions Terrasse, édité en septembre 2021. Introduction, page 21. Pourquoi écrire? À cette question, une multitude de doutes, de réponses et de pistes. Une seule certitude en revanche. Si je n'avais pas fait de l'écriture un pilier de ma vie, de mon intime, le fil conducteur d'un chemin cabossé, je serais morte. Je n'imagine pas par quel autre moyen il serait possible d'incarner mon corps, mes rêves, mes utopies, mon cheminement. Écrire, deux points, un outil pour créer et raconter. Autrement dit, l'écriture me permet de tenir debout. Elle me permet de tisser des souvenirs, mais aussi de marquer des cicatrices sur lesquelles je peux revenir et regarder avec du recul. Elle est non négociable. Elle sert à éponger les peines, organiser la colère, structurer des idées, dire, nommer, dénoncer. Elle me sert à crier, à pister les vulnérabilités dont on n'a pas idée pour m'éviter de les exposer et d'attirer une empathie déplacée ou dégoulinante. L'écriture est d'abord un exercice rigoureux entre moi et moi, entre soi et soi. Écrire permet cette chose difficilement descriptible, la conscientisation du soi. À une période de ma vie, elle fut la seule échappatoire. Elle joue encore ce grand rôle aujourd'hui. Parfois, quand mon corps s'immobilise et quand les émotions se figent, il me reste le carnet, le stylo ou le clavier. D'ailleurs, à 9 ans, pendant une énième crise de polyarthrite, ma grand-mère m'offrait un carnet et un joli stylo en me disant « Fais-en ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde, mais tu n'es pas obligé de te taire non plus. Alors tu pourrais écrire pour ne pas tout garder à l'intérieur. » En me remémorant ce souvenir, me vient aussi le fait que certains adultes ont toujours écrit autour de moi. Je ne parle pas de ce qu'on fait quand il y a une contrainte scolaire ou administrative. À 10 ans, je remplissais les formulaires de la préfecture pour les demandes de titre de séjour, les formulaires pour la sécurité sociale, etc. etc. Non, je ne parle pas de ces espaces où l'écriture est pénible, fastidieuse. Il me faut aborder le fait que ma grand-mère adoptive française écrivait des lettres, des mots traînant sur la table, des cartes postales, des mots d'amour et d'espoir. Mon père, lui, dans sa pratique de marabout, écrivait des lignes et des lignes pour fabriquer des objets protecteurs, en arabe littéraire. À l'écriture qui prenait donc de la place de différentes manières, s'ajoute l'oralité. Ce souvenir de cette pratique dans les années 90 où on envoyait des cassettes enregistrées à la famille au Mali pour qu'ils et elles puissent nous entendre. Même s'ils ne lisaient pas tous et toutes, c'est le dire qui compte, et le comment aussi. Mon incapacité à improviser me vient peut-être du fait que tout s'écrit. Les ordres du jour de réunion, les prépas d'anime, les cartes postales sonores, les chroniques pour la radio, la liste de courses, la to-do list, les petits détails et les grands moments. J'ai vu ma mère faire pendant des années, elle qui n'écrivait pas et ne lisait pas non plus. Tout s'écrivait néanmoins dans sa tête et se fixait au fur et à mesure, comme une performance créée sur du long terme à l'échelle d'une vie. Avoir une vision précise qui apparaît au fur et à mesure, en fonction de l'environnement, des états émotionnels et surtout en fonction d'une boussole intérieure maîtrisée par sa seule personne, une vraie chef d'orchestre, sans jamais avoir un stylo ou un crayon à la main. Dans ma vie, encore aujourd'hui, coexiste le journal intime comme brouillon permanent, traces du quotidien et des écrits travaillés pour les rendre lisibles et audibles. Écrire sera toujours un espace de liberté et de transformation. C'est un voyage entre les formes et le fond, entre le poétique et le récit, entre la fiction et le réel vénère, entre la rage et la douceur. C'est un espace malléable à merci. Il ne s'agit pas d'une fin en soi, jamais, plutôt de point de départ. Point de départ eux-mêmes marqués par des rencontres, des expériences, des tentatives, du quotidien, des colères, des joies, des tristesses et la rage. Cet ouvrage est un extrait des possibles, une proposition, une invitation acceptée. Ce sont des textes qui se lisent avec les yeux et s'entendent à l'oreille, parce que c'est un couple indissociable, l'écriture et l'oralité. C'est, dans ce moule, qu'est née une pratique qui ne se tarit jamais. Le rendez-vous des possibles en tant que meuf, noire, issue de quartiers populaires. Je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas poète. J'écris, je fais, je survis et je vis.
C'était un extrait du livre Fragment de Fatou S. On l'avait diffusé une première fois à la fin de la série Brasero, j'aime lire. Et ce texte, il nous avait donné envie de faire le cycle là que vous êtes en train d'entendre sur l'écriture. C'est la troisième et avant-dernière émission sur l'écriture. Une troisième émission bucolique, poétique et cathartique.
Rime riche.
Ben oui, c'est la troisième en même temps, alors nous on commence aussi à prendre le pli de l'écriture dans les intros. Bref, vous allez nous suivre à la rencontre de Naïd, poète magnifique. On va recroiser Alexia et son guide d'écriture pratique. Vous allez entendre un sketch qui se veut comique, un morceau de texte écrit pendant un exercice scénaristique et enfin une lecture d'un extrait de « Je suis une fille sans histoire » d'Alice Zénitaire pour terminer la mosaïque. Belle écoute
acoustique.
Je ne fais partie d'aucune histoire puisqu'aucune ne porte mon nom. Je ne cherche plus rien en traversant les yeux. Je rêve souvent que je bois des bouteilles de vin. Aujourd'hui, je ne suis pas du côté de la vie car le système n'est pas du mien. Je me fiche pas mal de ne pas avoir de pays, même si certains matins je pleure. Ce matin, j'ai pleuré, ça faisait longtemps. La tristesse est belle entre Caen et Paris. Les trains sont faits pour la tristesse et j'ai envie de faire la fête à en tomber par terre en écoutant Manu Reva. Où es-tu, Manu Reva ? Du coup, je m'appelle Naïd. J'habite à Marseille depuis pas très longtemps et j'écris beaucoup là-bas. Je vais à la mer et je profite de cette vie en ce moment. Qu'est-ce que j'écris ? J'écris des SMS, mais un peu moins en ce moment. J'écris des listes, mais des listes de choses à faire pour pas oublier. J'écris des notes, j'écris des mails et j'écris des poèmes. Depuis la dernière fois, rien n'a bougé. Les plaines et les arbres, la voix des trains qui traversent le temps. Ma sœur dort, je pense au fait que nous avons le même sang.
C'est important pour toi de signer tes poèmes ?
Quand je les écris, je les signe pas en tout cas. Parfois, quand je les partage, je mets mon prénom à la fin. Mais je crois que c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. De les signer. Là-haut, il n'y a que cela, en tout cas l'essentiel, paraît-il. L'essentiel du monde quand on pense au monde. De l'eau en gisement, de la roche et des arbres. Tant de vie au même endroit, cela m'empêche de dormir. Je pense que j'ai un peu la vision... Tu sais, ce truc un peu traditionnel où tant que t'es pas édité, tu te considères pas vraiment comme auteur ou autrice. J'ai l'impression que j'ai un peu ça. Et que peut-être... Peut-être si ça arrive ou quoi, je me sentirais plus légitime de dire ça. Et en même temps, si quelqu'un me disait ce que je suis en train de dire, je lui dirais que ça veut rien dire. Donc, ouais. Je me dis, ouais, je préfère me dire que j'écris des poèmes et que j'écris plutôt que je suis écrivain et que je suis auteur ou que je suis poète, enfin, tu vois. Peut-être que dans le fait de dire j'écris des poèmes, ça rend la chose moins... Comment dire Je suis poète, c'est à temps plein, quoi. T'es poète, t'es... Et puis c'est connoté, quoi. C'est hyper... Pas snob, mais il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Même si... J'espère qu'on va réinventer le fait de dire je suis poète et que ça sonne pas comme quelque chose de snob ou quoi. Mais le fait de dire j'écris des poèmes, bah, c'est quand je fais cette activité-là, je suis dans ça. Comme quand j'ai dit tout à l'heure, je vais à la mer en ce moment, bah, c'est aussi intense, enfin, aussi important, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Après la fête, toujours il reste ce qui a toujours été. La lune et les blés, les ajoncs et la mer. Parfois, je pense au jour où je n'avais pas conscience de l'existence de cet endroit, où je ne savais pas qu'il y avait cet endroit dans le monde, où je ne savais pas ce qu'était un ajonc, où je ne savais pas que je serais émue par les ajoncs, où je ne savais pas qu'à cet endroit du monde, je me coucherais plus jamais ivre, qu'à cet endroit du monde, je laisserais mes cheveux devenir ce qu'ils sont. Je dirais, je suis trans, tu ne peux pas dire que nous sommes identitaires, à quelqu'un qui aurait dit que les trans sont identitaires. Je porterai un pantalon blanc sans le tacher de vin rouge. Je ne savais pas à l'époque où la vie était si dure, où mon cœur étouffait de tant d'angoisse et de malheur, qu'il y aurait cet endroit du monde, à côté du grand bras de mer qui avale mes larmes et se gorge de mes sourires, au milieu des fleurs et des vers vides.
Toi, un peu comment tu viens à l'écriture ?
C'est assez instantané. Des fois, quand je peux écrire, du coup, je le fais sur le moment et... Et souvent, ça vient et ça se fait. Et voilà. Et si c'est des moments où je sais qu'il faut que j'ai envie d'écrire sur ce qui... Enfin, ou en tout cas, de m'imprégner d'un truc, bah, je prends vraiment le temps. Je me dis, là, regarde bien, écoute bien, sens bien ce qui se passe, parce que c'est hyper fort ou hyper... ou c'est beau ou qu'il se passe quelque chose que j'ai envie de garder. Et après coup, en différé, j'essaie de me rappeler de ça et de... Soit je m'en sers exactement, soit c'est un peu différent de ce que c'était. En tout cas, ouais, c'est vraiment... J'essaie de capter des atmosphères et après de les ressortir. Je pense aussi... J'ai découvert la méditation il y a pas très longtemps, enfin, il y a plus... Enfin, peut-être un an et demi. Et c'est vraiment le truc de se dire, là, je suis dans le moment. Et du coup, le fait d'être dans les moments que je vis, quand je sens que c'est des beaux moments, c'est aussi plus facile, parfois. Bah, ça fait que quand j'y repense, je m'en souviens vachement parce que j'ai éprouvé le truc pleinement. En tout cas, j'ai essayé de faire ça, tu vois.
Tu te souviens la dernière fois que t'as écrit, là ?
La dernière fois que j'ai écrit, c'était hier. J'écris des petits bouts de trucs. Ouais, j'écris souvent et à la fois pas assez du tout. C'est vraiment... je pense une phrase, je pense des trucs. Ou des fois, il y a un poème qui sort comme ça et je suis content, tout ça. Mais mon objectif, c'est quand même d'avoir un peu plus de rigueur pour que ça prenne la place dans la réalité autant que ça en prend dans ma tête, quoi. Mais en même temps, c'est assez difficile à faire. Et souvent, quand je m'y mets, je me dis, bon, cette semaine et tout, bah, en fait, au bout de 2 jours, y a toujours mieux à faire ailleurs et je vais faire autre chose, quoi. J'écris pas mal sur mon portable parce que je l'ai souvent avec moi et que c'est pratique. Ou sinon, sur des feuilles. Ou les carnets, j'aime bien quand ils sont pas trop des gros carnets. J'aime bien les petits trucs où ça me met pas la pression, tu vois. Il peut être un peu plié dans tous les sens et tout.
vers Libre. L'autobus, plein, le cœur, vide. Le cou, long, le ruban, tressé. Les pieds, plats, plats et aplatis. La place, vide. Et l'inattendue rencontre près de la gare aux mille feux éteints. De ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ses pieds, de cette place vide et de ce bouton.
Dans le S, à une heure d'affluence, un type, les 26 ans, chapeau mou avec un cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent, le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant, comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus, fermez les guillemets. » Il lui montre où, parenthèse, à l'échancrure, et pourquoi, point final.
Je pense profondément que que je suis contente d'écrire ce livre, et c'est extrêmement dur. Ça veut dire en fait que l'écriture, c'est un vrai moment où en fait tu te mets quelque part et tu travailles en fait. Voilà, et c'est malgré l'envie, l'enthousiasme, j'avais vraiment du mal. Donc je crois qu'en fait il y a deux choses dans ce truc-là. Il y a le fait que écrire c'est difficile. Enfin c'est difficile, c'est une pratique et c'est une. Il faut que tu t'astreignes. Et en même temps aussi, je crois que ce qui rend difficile c'est qu'en fait c'est ça parle de moi, mes origines. Et donc là en fait il y a une espèce de truc un peu peut-être douloureux. Et peut-être une troisième chose. Moi je sais pas si j'en parle là parce que. Mais c'est aussi, en tout cas pour moi, c'est comment vont recevoir les autres. Tu vois, est-ce qu'en fait, au final, ce que j'écris, c'est si intéressant que ça ? Et ce qui m'a un peu débloquée, c'est que j'ai fait des ateliers d'écriture avec une femme de Toulouse, une romancière qui s'appelle Hélène Dufaux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Mon combat ». Entre autres, quoi, une écriture un peu, tu sais. Et en fait, quand j'ai fait les premiers ateliers d'écriture, ce qui m'a vraiment plu, c'est que même si c'était juste le plaisir d'écrire, et donc je me dis, ça remplaçait un peu les craintes, tu vois, qu'il y avait de comment. Parce qu'après, une fois que tu as fait un roman, tu vas pas le faire un exemplaire, le garder pour toi, en fait. Moi, j'ai envie de le partager. Et voilà. Et les moments, en tout cas, oui, les moments, c'est. Donc je sais qu'il y avait plein d'astuces, tu sais, genre aller dans un café pour écrire, ou par exemple se dire de telle heure à telle heure on écrit. Donc voilà, donc ça marche un petit peu, mais pour moi en fait c'était un peu décousu. C'était pas forcément si facile que ça en fait. Malgré le fait que quelquefois, tu vois, je me dis bon là je suis vraiment sur presque la fin en fait. J'ai la première relecture elle est faite, je suis à la fin de la. Parce que j'ai imprimé, je relis, tu vois, je reformule. Et j'ai commencé à faire une bibliographie parce que je me suis inspirée d'autres lectures que j'ai faites, d'autres recherches. Et je suis en train de peaufiner la bibliographie. Voilà. Et en discutant avec quelqu'un, on m'a dit, mais en fait, terminer quelque chose, c'est pas facile, quoi. C'est dur, en fait. Ça peut prendre du temps. Mais je suis quand même là dans une dynamique où les moments, en fait... où je peux, j'y vais, quoi. Tu vois, là, moi, j'écris sur papier, quoi. Dans des cahiers, tu vois, des feuilles que je mets comme ça, j'étale des feuilles, je regarde. Le moment donné, il fallait mettre par chapitre. Tu vois, en fait, je me suis fait un grand panneau avec des gros chapitres que je triais, que je mettais là, enfin, je bougeais de place, quoi. Quand j'écris, je bois. Il y a toujours une tasse de thé quelque part. Non, mais il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit sur ce truc, tu sais, de pas d'avoir de l'appréhension à y aller. C'est comme un peu ce qu'on dit, tu sais, devant la page blanche, le grand vide là. Tu sais, et il y a une amie qui m'a dit, en fait, tu peux t'installer à un bureau et puis à côté tu mets une autre chaise. Tu vois, en fait, l'autre chaise qui signifie, éventuellement, enfin là c'est peut-être un peu barré, mais cette appréhension que tu as, en fait, eh ben, elle est à côté de toi, mais toi tu es quand même au travail, malgré... Donc voilà, il m'est arrivé 2-3 fois de mettre une autre chaise à côté, voilà. Mais j'ai pas vraiment de rite pour commencer à écrire ou... Il y avait un autre ami, il y a beaucoup de gens qui me donnent des conseils. Un autre ami, il me disait, même si tu n'écris rien, même s'il ne se passe rien, même si c'est un mot, tu restes à cet endroit-là où tu es de ce moment d'écriture, tu vois. Voilà. Et donc, mais ça ne m'est jamais arrivé, en fait, de rester et que rien ne vient, tu vois. La dernière fois, ma fille m'a dit, mais en fait, ma mère parle toute seule dans le salon. Et en fait, c'est parce que je relisais à voix haute. Je relis à voix haute vers la fin, tu vois. Et pour que ça coule, pour qu'il y ait une cohérence, quelquefois, en fait, comme peut-être moi, je fais des phrases courtes et un peu simplifiées, quelquefois, je vois qu'en fait, dans ma tête, il y a le lien, il y est, et en fait, à la lecture, il n'y est pas. Donc, tu vois, pour que les choses soient... pour les clarifier, en fait. Mais ça n'a pas été, si tu veux... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a, il y a plein de façons de travailler et d'écrire. Mais moi, je n'ai pas commencé une page et je n'ai pas déroulé, en fait. Tu vois, ça a été des choses que j'ai rassemblées, que j'ai mis un peu en lien. Et après, j'ai fait d'autres textes pour... mettre un sens à tout ça, quoi. Enfin, pour donner plus de sens ou de contenu. Ou... C'est marrant, en fait. Ça fait un peu bordélique, tu sais, comme façon de faire. Mais je pense qu'il y a plein de façons de faire différentes, en fait. Il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre, en fait. C'est toi d'arriver à te retrouver et puis d'arriver à terminer. Mais tu vois, je me dis, là, j'ai vraiment envie de le terminer, mais il faut que je fasse attention de ne pas le bâcler, en fait, quand il termine. Tu vois, il y a une espèce de... Même il y a très longtemps, j'ai pensé à la couleur de la couverture. Une fois, je voyais des cançons, tu vois, du papier canson. J'aimais bien le grain et il y a eu 2 couleurs là, qui m'ont un peu interloqué. Je les ai mis de côté. Oui, là, c'est... la forme du livre, elle est importante, en fait. Tu vois, la forme en tant qu'ouvrage et même la forme esthétique, en fait, elle est importante. Oui, je suis... je vais être trop contente quand il va être imprimé, en fait.
Je vais vous lire un texte que j'ai écrit la semaine dernière. C'était au Labo des Conteuses. C'est un endroit où je vais chaque mois pour notamment tenter d'écrire l'oralité. J'ai eu l'idée de ce texte en faisant la vaisselle. Brûler, mettre en cendres, brûler le capitalisme, le patriarcat, brûler ce vieux monde. Ils viennent me piquer mon briquet, ça doit être le 100e qu'ils récupèrent. Il les prend et il les cache. Je ne les retrouve jamais. Il m'a dit que quand il serait grand, il voulait vendre des briquets et des brosses à dents. Peut-être que c'est une couverture et qu'il prépare la révolution. Il a 3 ans et demi, ses propos ne sont pas toujours clairs. Je viens de finir ma 5e machine de la journée. Dans l'évier, comme toujours, de la vaisselle à faire. Dans l'évier, toujours un stock inépuisable de choses à nettoyer. J'ai entre les mains une éponge et je prends ce qu'il reste, un Tupperware. Il y en a 3 autres en attente de lavage. Dans mon évier à moi, 4 Tupperware. 0 briquet. Merde. Ce contenant, pratique, transportable, anti-gaspi, je l'ai toujours évité. Il me faisait flipper. Fais-toi un tupper avec ce qu'il reste. Non, je préfère acheter un sandwich à 8 balles, même quand j'ai pas une thune. Pour moi, les Tupperware, c'était pour les gens organisés, celles qui passaient du temps à la maison, dans la cuisine, qui prévoyaient. Ça me renvoyait à un rôle que j'évitais, au foyer. Négatif, idée fausse, merde. Pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai rangé les gens et les Tupperware. Je les ai opposés à moi. Je les ai mis sur un banc en dehors de la révolution. Aujourd'hui, je suis sur ce banc. Et pourtant, la révolution, elle brûle encore en moi. Je veux encore en faire partie. Plus de briquets pour brûler le vieux monde, mais des Tupperware. La maternité, ça fait ça des fois. Ça fait ça à moi, un endroit, un angle mort. Pas qu'on n'est pas invité, mais les conditions de notre présence ne sont pas réunies. Est-ce que ça revient au même? Est-ce que si on pensait la place des darons dans les luttes, ça serait différent? Est-ce que si on réalisait que tout ce travail invisible et déprécié de faire tourner la machine, d'éduquer les enfants autrement, est-ce que si on réalisait que ces endroits pourraient aussi être les endroits de la révolution? Au lieu de ça, on leur a laissé. Il leur appartient encore cet endroit au vieux monde. Espace clos, solitude, famille nucléaire. Tu descends dans la rue pour la PMA, camarade, mais si une fois que les enfants sont là, t'es pas là pour penser avec moi leur émancipation, un modèle qui éclate la reproduction, qui brise les carcans, on fait quoi? Je m'excuse, moi-même j'ai évité les Tupperware. Mais je te le dis, les darons, c'est des queens, des fortes, des qui font dans l'ombre, des qui surmontent, des qui ont des trucs à t'apprendre. Mes 4 Tupperware sont nettoyés. Je les range dans le placard avec les autres. En bordel quand même, sans penser à joindre les couvercles aux boîtes. C'est la réticence qu'il me reste. Le bout que j'ai intégré et qui m'amène moi-même à me déprécier. Mais déjà qu'il faut lutter, si je dois aussi lutter pour continuer à me battre avec vous, c'est double lutte, double travail, double tout. Tout a doublé sauf le pouvoir que tu me donnes. Je m'excuse d'avoir moi-même eu cet angle mort. Je m'efforcerai à le rendre aujourd'hui vivant. Je suis chez moi, la sonnette retentit. J'aime cette idée que des gens sonnent encore à la porte sans que ça soit prévu. Ça n'arrive tellement jamais que je n'ai pas encore mémorisé le bruit de la sonnette. J'appuie sur le bouton de la porte pour ouvrir. Et j'entends plusieurs paires de pieds monter les étages. Kawé, noir, basket. 4 de mes amis, camarades. Ça fait un bail que je les ai pas vus. Ils ont une tête de mal dormi. Ils s'écroulent sur mon canapé. On savait que tu serais chez toi. Je sais pas si je dois bien le prendre. Et personne ne nous cherchera ici. J'hésite à commencer un monologue sur à quel point ma situation n'a rien enlevé à ma dangerosité, ma prise de risque, mon vandalisme. Mais je vois bien qu'ils ont besoin de moi. Ça me fait me sentir encore plus daronne qui réceptionne ces ados rebelles après qu'ils aient fait toutes leurs conneries. Je leur sers un café avec une pointe de whisky. Laura tremble, Faiza rigole nerveusement, June regarde ses pieds, Lolo prend la parole. Ça a mal tourné. On devait juste le séquestrer quelques heures, le temps que les ouvriers s'organisent, le temps de foutre un coup de pression, mais ça a mal tourné.
Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Bien quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade, et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Écrire pour ne pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli. Écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler, je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas
Bonjour, Ghislaine Findarico.
Oui, bonjour, c'est moi, tout à fait, bienvenue. Comment vous appelez-vous?
Moi, je m'appelle Jocelyne.
D'accord, bonjour Jocelyne. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez eu mon nom?
Alors moi, c'est une collègue du mouvement toulousain contre l'éco-anxiété qui m'a donné votre numéro. Mais bon, je ne suis pas du tout là pour ça, hein. Je suis venue plutôt parler de questions personnelles, affectives, voilà.
D'accord, c'est super. Ça tombe très bien parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. Alors Jocelyne, installez-vous sur le canapé, voilà, dépêchez-vous parce que la séance ne dure que 10 minutes, hein, mais c'est important, hein, c'est comme ça que l'inconscient travaille. Donc vous allez commencer par inspirer et expirer, voilà, c'est très bien. Et nous allons faire aujourd'hui un exercice d'écriture automatique, voilà, dans le but de peut-être atténuer votre anxiété chronique, qui est somme toute assez compréhensible vu le monde de merde dans lequel on vit, hein. Alors voilà, prenez un papier et un stylo et vous allez écrire pendant 2 minutes sans réfléchir. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, c'est très bien, continuez comme ça. Voilà, vous allez pouvoir me lire le texte et on va essayer de le comprendre ensemble.
D'accord. J'ai passé la soirée à me demander si je lui renvoyais un message.
Attendez, Jocelyne, vous avez entendu. Vous avez passé la soirée à imaginer si vous alliez lui renvoyer un message, lui envoyer
oui,
à
ça.
Nouveau un message. Mmh. Ça parle évidemment de votre énergie, est-ce que votre énergie est renouvelable? Mais ça parle de l'énergie aussi. Mmh. Est-ce que l'énergie est renouvelable? Ou est-ce qu'on court tous à notre perte finalement?
Je continue?
Oui, allez-y, continue.
La dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a un mois. On a passé une soirée sympa, ciné, puis un verre avec ses potes.
C'était... Stop. Vous avez entendu? Vous avez dit pote. Qu'est-ce que vous entendez dans ce mot pote?
Plutôt avec ses amis, ses connaissances.
Oui, mais encore, allez au-delà de la première signification. Quand vous entendez pote, et si on décortique le mot pote, mmh. on entend pote. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez dans la première partie de ce mot?
Peau?
Oui, tout à fait, ça parle de peau, des peaux, mais des plantes qui vont dans ces peaux. Et ça parle de la fin de ces plantes, de la mort imminente de toutes ces plantes qu'il y a sur Terre. Et vous avez dit aussi les vers. C'est la fin des vers V-E-R-S. Il n'y aura plus de vers pour nourrir la Terre, mais il n'y aura plus de vers V-E-R-T non plus.
Mmh. On a bu un verre avec ses potes, ouais. C'est vrai que...
Continuez, oui, allez-y.
C'était cool, mais comme d'habitude, il est parti le lendemain et depuis, je suis dans l'attente. Alors, j'essaie de le relancer par message, mais je manque d'inspiration.
Vous entendez, Jocelyne ? Vous entendez ce que vous dites ? Vous manquez d'inspiration. Mmh. Vous manquez d'inspiration, mais vous ne manquez pas seulement d'inspiration, vous manquez d'expiration aussi. Mmh. Évidemment, Jocelyne, vous suffoquez. Vous suffoquez parce qu'il n'y a plus d'air sur cette terre, vous comprenez ?
Oui, je vois bien de quoi vous parlez, ouais. Ouais.
Continuez, Jocelyne.
C'est la fin de mon texte.
C'est la fin de votre texte, et oui. Mais ce n'est pas seulement la fin de votre texte. C'est la fin aussi de l'eau, c'est la fin de la fécondité, c'est la fin des espèces animales, c'est la fin des fleurs, c'est la fin des plantes, c'est la fin des baleines. Jocelyne, c'est la fin des saisons, c'est la fin des haricots,
oui.
Jocelyne.
Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide. Mais là, franchement, je crois qu'il faut absolument que j'aille à la réunion mensuelle contre l'éco-anxiété, là.
Oui, c'est bien, Jocelyne. Allez-y, ça va vous faire beaucoup de bien. Allez-y.
À bientôt. Au revoir.
Je ne sors pas. Je m'habitue au mur de la chambre à côté. Tout me semble grand, vertigineux. Pourtant, je m'habille tous les jours. Nous regardons des films chinois, observons la tempête quelques secondes seulement. Il ne faudrait pas rater une seule miette de la vie intérieure. Sinon, que se passerait-il? Si même la certitude d'être à l'abri disparaissait à son tour. Je mange bien. Je ne dors pas très bien, mais ce n'est rien, juste un dommage collatéral. Il fait frais dans la salle de bain. Ce n'est même pas à cause du mois de novembre, qui ne ressemble à rien d'autre qu'à une plaisanterie du printemps. Je crois que je sais pourquoi j'écris. Je me suis pas mal demandé. Je pense que j'écris pour ressentir des choses et parce que j'ai envie que les gens qui me lisent ressentent des choses avec moi. Et surtout, j'ai envie que ce soit... J'ai envie que ce soit des gens de la vraie vie qui ressentent des choses avec moi. Et de créer de l'émotion, en fait, juste avec de la poésie, mais de l'émotion, justement, pas pour des personnes qui font pas trop partie de ma vie, mais même pour des gens qui aiment pas forcément la poésie. Je crois que c'est ça que je veux le plus.
Si j'ai bien compris, ça veut dire que toi, en fait, quand t'écris un poème, ça te fait des émotions de le faire, de l'écrire.
Ouais, ouais, vraiment. Ça me fait... Enfin, ça vient dans ma tête, et puis après, il y a du rythme, il y a quelque chose qui... Ouais, ça me fait un truc de le faire.
Et tu te relis ?
Je me relis... Pas tout de suite, des fois. Ou parfois tout de suite, ou parfois quand j'ai envie de partager ça, d'envoyer à quelqu'un ou quoi. Et des fois, je me relis après. Et souvent, je change pas grand-chose, peut-être un ou deux trucs. Après, parfois, il y en a qui me plaisent plus. Mais il y en a qui, ça va, ça bouge pas.
Hier, je t'ai entendu dire à voix haute des choses que t'avais écrites. Est-ce que ça fait partie pour toi aussi de l'écriture, le fait de aussi mettre ta voix sur ton écriture ?
Bah, je pense limite c'est hyper. Je pense que j'entends les choses quand je les écris et j'ai l'impression que mes poèmes ils sont hyper. Ils sont faits pour la voix quoi. Et je les pense pour la voix. Et du coup, le rythme, la façon dont j'écris et tout, c'est vraiment. Il y a ma pensée, il y a un truc de voix quoi. Et du coup, et j'aime aussi ça dans le fait de, bah là on est ensemble, et je vous donne quelque chose, et je vous dis quelque chose, et j'espère que ça va résonner à des endroits, et c'est pour ça que ouais, la voix ça me parle. Pour moi c'est vraiment une écriture orale, c'est chercher comment tu mets du sens aussi dans le rythme que tu donnes, dans la façon... Ouais, c'est vraiment une histoire de silence, de mettre le truc au bon moment et tout. Enfin, À 3h à Rennes, nous couchons la fenêtre ouverte. Nous sommes au 3e étage. Le rail s'enfuit dans une voiture qui roule vite, il me semble. ou c'est la fatigue qui me fait croire cela, que tout va vite, que la vie est tendre et la beauté envahissante.
À quoi ça sert d'écrire? Et à qui ça sert? T'as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais...
Ouais, je pense que ça sert à éprouver des choses, à marquer des moments, que des moments de la vie, que en fait il y a des choses qui sont importantes. Ça sert à être reconnaissant ou reconnaissante. Ça sert à souffrir aussi, à dire qu'on souffre et que des fois, juste c'est pas facile. Je trouve que ça sert à avoir de la force et à se dire que nos vies. Elles ont de la valeur, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment... à la fois, c'est très intime, mais c'est complètement... Il y a des trucs qui reviennent, qu'on éprouve tous et toutes, je pense. Et je trouve que ça permet de se rappeler de ça. De se rappeler que... Ouais, peut-être d'être moins seul ou... Quelque chose comme ça. Et juste, ça sert à vibrer. Ouais, clairement.
Est-ce que tu parles à quelqu'un, toi, quand t'écris?
Des fois, je dis tu, quand je parle à quelqu'un. Des fois, je dis tu, mais il n'y a personne. Enfin, je l'écris tu, mais il n'y a personne. Des fois, je dis, je sais pas... J'ai l'impression que j'écoute la voix dans ma tête. Des fois, je parle un peu avec. C'est assez... Des fois, je parle à Dieu. Et je parle aux choses auxquelles je m'adresse aussi. Il est parti comme ça, sans rien, pieds nus, et quand on l'a retrouvé plein de poussière et le ventre vide, il ne se souvenait de rien, seulement du numéro de téléphone de Jeddah. Je ne sais pas ce que ça fait de disparaître comme ça d'un coup. Enfin si, je sais ce que ça fait, mais contrairement à lui, je reprenais toujours mes esprits avant de perdre un peu la tête, avant que le temps passe et les jours avec lui, avant de ne plus savoir manger, de ne plus savoir comment mastiquer, avant d'oublier l'existence de l'eau et sa nécessité. Lui, c'était ça. Il avait oublié, c'est sûr. Il était plus maigre que d'habitude et son regard ne fixait rien par la fenêtre de l'hôpital. Rien si ce n'est la couleur terne des voitures qui klaxonnaient et traversaient la ville sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Et toute cette agitation, et surtout l'absurdité de cette agitation, rendait ses yeux pleins d'étonnement. Et ça, pour le coup... Ouais, la poésie, c'est ça, c'est trouver la façon de dire quelque chose et attraper, être attrapé par ça. Et puis après, et de sentir que ouais, ça va partout dans toi, qu'il y a plein de... que c'est pas ton histoire, mais qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, mais qu'il y a quelque chose qui se passe. Il a déshabillé une orange comme on décortique une noix, avec vigueur, et on aurait cru qu'il n'avait jamais mangé d'orange. L'acidité avait provoqué une telle grimace chez lui, quasiment une grimace de nourrisson, et malgré la vigueur, il avait mis bien 5 minutes à décortiquer l'orange. Et ça, c'est à cause des médicaments et de la vapeur qu'il provoque tout autour de la tête. Jeddah est venu le chercher, il ne savait pas qu'elle avait beaucoup pleuré et autant prié pour lui, et pour ses yeux verts presque transparents. En fait, il ne savait pas qui elle était, il ne savait pas qu'une automobile étrangement flashy avait traversé la ville avec Jeddah dedans, qui priait en espérant que c'était bien lui qu'on avait ramené à l'hôpital le ventre vide et plein de poussière. Moi, j'ai l'impression que c'est tout dans les détails et dans la simplicité. Et que... Parce que ça, c'est hyper... c'est commun et c'est... Enfin, je sais pas, des fois, par exemple, on va dans un endroit, on voit une assiette et puis elle ressemble à une assiette qu'il y avait chez quelqu'un 10 ans plus tôt. Et en fait, tu vas parler de ça dans un poème, bah, ça peut trop faire écho. Et pourtant, c'est une assiette, quoi. C'est rien, genre... Mais à la fois, ça fait tout, ce genre de... Du coup, moi, je pense que c'est ça, faut juste... savoir ce qu'on veut dire, si on veut plutôt de la douceur, si on veut plutôt autre chose, ou dans quel mood on est, si on veut que ça aille vite. Je pense que c'est aussi une question de rythme, sentir comment, dans le corps, comment tu te sens, si t'as envie que ça aille vite, si t'es dans de la lenteur ou pas. Mais ouais, que c'est une question d'être... d'être là à l'endroit où, où t'es et puis de... Ouais, de faire quelque chose avec ça. Juste peut-être rajouter un truc sur la dernière question, sur ce qu'on disait. Que c'est quoi la poésie, enfin, les, un peu avant. En fait, je pense que c'est raconter des choses, raconter nos histoires, mais... avec... en y mettant une certaine forme, quoi. C'est genre, l'emballage d'un papier cadeau, quoi. Le contenu, mais si t'en fais un autre truc, genre, tu en fais quelque chose d'un peu plus... un peu plus beau, je sais pas trop comment dire. C'est des images bizarres, mais bref.
Non, mais c'est très bien.
Un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S, je vis un foutriquet de je ne sais quelle S, pèse, qui râlait bien qu'autour de son turban, il y eut la tresse en place de ruban. Il râlait ce jeune homme à l'allure insipide, au col démesuré, à la laine putride, parce qu'un citoyen qui paraissait majeur le heurtait, disait-il, si quelque voyageur se hissait haletant et poursuivi par l'heure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'y eut point d'esclandre et le triste quidam courut vers une place et s'assit sottement. Comme je retournais direction rive gauche, de nouveau j'aperçus ce personnage moche, accompagné d'un zèbre, imbécile dandy, qui disait « Ce bouton, faut pas le mettre ici. »
L'hippogramme. Voici, au stop, l'autobus stoppa. Y monta un zazou au cou trop long, qui avait sur son caillou un galurin au ruban mou. Il s'attaqua au panard d'un quidam dont harpion, corps, durillon sont avachis d'un coup. Puis, il bondit sur un banc et s'assoit sur un strapontin où nul n'y figurait. Plus tard, vis-à-vis, la station Saint-Machin ou Saint-Truc, un copain lui disait « Tu as ton raglan un bouton qu'on a mis trop haut. » Voilà.
Commençons peut-être par les présentations. Elles seront unilatérales car je ne peux malheureusement pas savoir qui vous êtes. Vous êtes vous, et c'est ainsi que je vais vous désigner dans ce texte. De mon côté, je m'appelle Alice Zeniter. Je suis écrivaine et pendant une centaine de pages, je vais vous parler du récit. C'est un sujet important pour moi, pas uniquement parce que mon métier est d'écrire des histoires, mais parce que les histoires, les récits, constituent une part énorme de nos existences et qu'on prend peu le temps de les étudier. Ce texte est l'occasion de pouvoir partager avec vous quelques réflexions et quelques outils. Je suis très heureuse qu'il voit le jour car l'envie de l'écrire est née il y a plusieurs années déjà. Je me souviens que j'étais dans le train Saint-Brieuc-Paris. Je m'étais couchée trop tard, levée trop tôt et j'avais cru pouvoir compter sur le trajet de TGV pour rattraper une ou deux heures de sommeil. Je me suis installée dans le carré famille, côté fenêtre, et j'ai essayé de dormir. Mais rien. Bien sûr, moins je m'endormais, plus je devenais nerveuse et moins j'avais de chances de pouvoir dormir. Donc, au bout d'un moment, je me suis levée pour aller chercher mon livre que j'avais laissé dans ma valise. Je suis allée jusqu'au compartiment à bagages qui était à l'autre bout du couloir. J'ai ouvert ma valise et là, normalement, vous pensez qu'il va se passer quelque chose. Dès que je vous dis que j'étais dans le train, je crée ce genre d'horizon d'attente. Le simple fait que je choisisse de parler de moi dans le train veut dire qu'il y a une histoire, quelque chose qui vaut la peine d'être raconté. En plus, c'est en début d'ouvrage, donc ça doit être captivant. On l'espère pour moi, j'ai dû choisir une sacrée bonne histoire.
Sauf que moi, quand je suis dans le train, dans le carré famille, côté fenêtre ou debout dans un couloir, je suis pas en train de penser que je vis le début d'une histoire. Je me demande pas « Ah mais Alice, comment tout cela va-t-il se dérouler ?» Non, je me contente d'être dans le train et ce n'est pas possible que vous compreniez ce que ça veut dire parce que dès que je commence à le raconter, j'efface toute possibilité de simplement être. Être assise, être dans le train, être côté fenêtre. Et peut-être que ça veut dire que toute mise en récit est, au moins en partie, de la fiction. C'est de ça que je voulais parler. Parce qu'on se raconte tous des histoires, tout le temps. On en écoute, lit, reçoit en permanence aussi. En réalité, nous sommes pétris de mises en récit que nous ne détectons même plus. Nous avançons sur des lignes de texte, là où nous croyons voir du réel. Là où nous pensons que nous avons les deux pieds bien plantés dans les faits. Pensez aux bandes-annonces de cinéma qui proclament que les films sont inspirés par des faits réels, ou au fact-checking qui est en train de devenir une branche à part entière du journalisme. Il n'y a pourtant de rapport aux faits que dans un nombre infime de cas. Les cinéastes qui s'inspirent de faits réels s'inspirent du récit des faits réels qu'on a pu leur faire. De leur côté, les journalistes qui reprennent un homme ou une femme politique sur tel ou tel chiffre s'appuient sur une déclaration d'une communauté scientifique qu'ils estiment plus fiable que le politicien en question. Peut-être que nous sommes pris en permanence dans une lutte textuelle, auquel cas la sémiologie, la narratologie ou la linguistique devraient être considérées comme des outils de première nécessité pour analyser les énoncés qui nous entourent. Je ne comprends pas pourquoi on les laisse dormir derrière les murs de l'université en estimant que les disciplines n'intéressent que les quelques chercheurs qui mènent des travaux dans ces domaines. Parfois, je la trouve tellement évidente, tellement frappante, cette lutte textuelle qui nous assaille, que j'en viens même à penser que la sémiologie ou la narratologie ne sont pas juste des outils, ce sont carrément des sports de combat. Auquel cas, ce texte est un cours d'initiation. Ces problèmes d'histoire épidémique que je viens d'aborder n'est pas une tension récente, loin de là. Même les hommes des cavernes se racontaient à eux-mêmes avec les moyens du bord et ils ont laissé des peintures et des gravures sur les murs de leurs grottes. Dès l'époque des peintures rupestres, on peut repérer un problème de la non-adéquation du récit et du réel. Mais quel problème, précisément ? Dans la théorie de la fiction panier, l'autrice américaine Ursula Le Guin se demande comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs a pu devenir le berceau de récits qui ne parlent que des chasseurs. Elle met en balance le fait que la viande occupait une part minime de l'alimentation. Entre 65 et 80% de la nourriture des humains était cueillie. Et la place énorme occupée sur les parois des grottes et dans les esprits par les chasseurs de mammouths. Ce n'est pas parce que la viande était cruciale que les chasseurs se sont imposés. C'est parce que leur histoire était meilleure. Et c'est vrai que les récits de cueillette sont peu délicats à construire. Si je vous raconte, par exemple, que j'ai passé ma journée dans les bois et que j'ai cueilli une airelle, et puis une autre, et puis une autre. Ah, et encore une autre. 10 airelles, 20 airelles. Bon, ce n'est pas trépidant. Je peux bien sûr essayer d'y mettre un peu plus d'intensité. Aujourd'hui, j'ai cueilli une airelle, suivie d'une autre airelle. Et soudain, je suis tombée sur un merveilleux coin à airelles. Elles étaient rouges et brillantes, les plus belles de toutes les airelles. Et moi, je les cueillais par poignées. Et bon, autant l'avouer, même si je rajoutais du passé simple, des chiasmes et des homéothéleutes, il y a de gros risques que je vous ennuie. Mais si je vous raconte qu'un mammouth monstrueux a foncé sur moi... J'étais tapie dans une fosse gluante, creusée pendant la nuit quand il est arrivé tout près de moi. Énorme et terrifiant, j'ai jailli d'un bond. Il a essayé de me donner un coup de défense. Bim ! Parade avec le bâton, deuxième coup de défense, esquive latérale, roulé-boulet, balayette, clé de bras, je glisse entre ses pattes, je plonge ma lance dans son ventre. Il y a du sang partout et ça jaillit en torrent. Là, bien sûr, j'ai plus de chances d'avoir votre attention. Là, il y a de l'action, du conflit, un héros, c'est formidable. Mais c'est aussi un problème, parce que ce type d'histoire n'a que l'histoire du héros. À force d'entendre des histoires de chasseurs, on a oublié les cueilleurs et on a formé une sorte d'équation vie-viande qui ne provient absolument pas des valeurs nutritives de la nourriture, mais des formes séduisantes du récit. Partout, note Le Guin, cette histoire de violence s'est construite autour des instruments des guerriers. C'est la lance ou la massue des peintures rupestres. C'est le récit lui-même pensé comme une flèche, partant d'ici et filant tout droit jusqu'à son but. Pourtant, la lance, la flèche ou la massue ne sont pas les premiers instruments conçus par l'humanité. Le Guin cite Elisabeth Fischer qui a écrit un livre sur l'évolution de l'espèce humaine prenant en compte l'apport des femmes. Deux points, ouvrez les guillemets. Le premier équipement culturel a probablement été un récipient. Fermez les guillemets. Une sorte de panier, de saladier ou de poche et une écharpe pour pouvoir le promener en bandoulière. Il aurait fallu inventer une fiction panier et pas une fiction lance, dit Le Guin. Alors peut-être que le récit n'aurait pas trahi le réel. Extrait de Je suis une fille sans histoire, Alice Zeniter.
La phrase est de Raymond Queneau. Zazie dans le métro, c'est l'œuvre. Et donc le début de la phrase est quand Gabriel va se montrer en tutu. Donc de Raymond Queneau dans l'œuvre Zazie dans le métro. Phrase numéro 1, quand Gabriel va se montrer en tutu, le chien arrêtera d'aboyer. Phrase numéro 2, quand Gabriel va se montrer en tutu, il pleuvra des roses. Phrase numéro 3, quand Gabriel va se montrer en tutu, la gueule qu'ils vont faire. Phrase numéro 4, quand Gabriel va se montrer en tutu, ce sera le cohu-bohu du m'as-tu vu. Quand Gabriel va se montrer en tutu, phrase numéro 6, numéro 5, numéro 8. Quand Gabriel va se montrer en tutu, on va se prendre une grande tranche de rigolade. Quand Gabriel va se montrer en tutu, elle ne saura plus où donner de la tête. Quand Gabriel va se montrer en tutu, il y a de grandes chances que l'on voit son cucu. Ok. Il y a une rime. Rime riche. Tutu, cucu. Donc, selon vous, quelle est la phrase directement issue de l'œuvre de Raymond Queneau, Zazie dans le métro ?
La dernière.
La dernière. Tutu, cucu.
Voici la 3, la gueule qu'ils vont faire.
La gueule qu'ils vont faire.
Ouais. Tutu, cucu. Je préfère pas me prononcer.
Moi, la 1, mais je me souviens plus laquelle c'est.
La 1, le chien arrêtera d'aboyer.
Ah, oui.
Ok, 1. Hein.
Kohu-bohu.
Le tohu-bohu. Cucu. Ok.
La gueule qu'ils vont faire.
Ok, très bien. Il y a deux personnes qui ont gagné.
Waouh.
On est deux à applaudir.
Ça tombe bien, c'est vous qui avez trouvé la phrase de Raymond Queneau, Zazie dans le métro. Quand Gabriel va se montrer en tutu, la gueule qu'ils vont faire.
Et c'est ainsi que s'achève cette troisième émission de Brasero Écriture. On espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour la dernière. Ciao.
À bientôt.